Les sketchs vont devenir de plus en plus bizarres, elle a dit juste avant que je parle. Vous trouvez ça très normal, vous? Ça me met la pression. Bien, eh ben Noël, il y a beaucoup d'histoires qu'on raconte, elles sont imagées. Merci à tous ceux qui ont préparé ces sketchs qui nous obligent à lire ou à regarder des histoires connues et racontées des dizaines, voire des centaines de fois, d'une autre manière, avec une autre approche. Alors on va prendre encore peut-être un peu moins fort le son là, parce que je me sens résonner dans ma tête. Merci. Je vous propose une lecture d'une de ces histoires de Noël qu'on trouve dans l'évangile de Luc, qui est l'évangéliste qui a le plus raconté sur la naissance, autour de la naissance de Jésus. Et ça va être concerner un certain Siméon. Donc on est dans l'évangile de Luc, pour ceux qui veulent suivre, au chapitre 2. Et je commence au verset 21. Je vais lire et puis faire quelques commentaires au fur et à mesure hein, pour qu'on puisse suivre ce texte ensemble. Si quelqu'un ne comprend pas ce que je dis, surtout les enfants, vous criez, vous levez la main, vous dites « Ah, d'accord, vous avez le droit aujourd'hui, c'est votre journée, c'est votre culte, vous avez le droit de tout, donc profitez-en. » Lorsque, 8 jours plus tard, donc c'est 8 jours après les événements dont on a parlé, hein, la crèche, les bergers, l'aubergiste qui ne fait pas payer, etc., etc., on est bien dans cette histoire-là, arriva le moment de circoncire l'enfant et on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il ne fût conçu. Ça veut dire quoi, Jésus, les enfants? Qu'est-ce qui a une idée de ce que peut vouloir dire Jésus? Alors, Emmanuel, c'est un autre nom. Et Jésus, ça ne veut pas dire Emmanuel. Mais Emmanuel, c'est un nom dont on a appelé Jésus. Oui, tu as raison, mais... Alors, qui peut? Personne ne sait? Oh. Oui, mais le pasteur, il n'a pas le droit de parler, lui. J'espère. Ça veut dire sauveur, celui qui sauve, celui qui délivre. Voilà le prénom qui avait été proposé à Marie quand l'ange lui a annoncé qu'elle aurait un enfant. Elle lui dit, tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauve. Ça place la barre déjà bien haut. Et alors après, une fois passé, je continue la lecture, le temps prescrit par la loi pour leur purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Donc la loi proposait que le premier garçon qu'on avait, on l'offrait au Seigneur pour qu'il soit à son service, ou on le présentait au Seigneur et on offrait en échange un sacrifice. Donc on est dans un rituel autour de la naissance et les parents de Jésus respectent tout ce qui se fait, tout ce qui se faisait à l'époque. On a la même chose aujourd'hui, hein, vous avez parmi vos amis des gens, il y a des enfants qui naissent et il y a tout un rituel, on envoie un faire-part, certains font baptiser leur enfant, etc. Enfin voilà, il y a tout un cérémonial autour de ça. Mais c'est la suite qui nous intéresse. Et on continue à partir du verset 25. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Alors, poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon attendait. Qu'est-ce que nous attendons, nous? Hein? On attend la fin du culte, parce qu'il y a des agapes. On attend les vacances. Ça y est, vous êtes en vacances, là? Non? Donc, on attend les vacances, c'est bien ça. On attend les cadeaux de Noël. Quand on est plus âgé, on attend de finir ses études, on attend un travail, on attend un conjoint, on attend la retraite, on attend... que sais-je, quoi? On attend. Tout le monde est dans l'attente. Et Siméon, lui, il attendait quelque chose de très particulier. Il attendait l'accomplissement des promesses de Dieu. Voilà quelle était sa vie. Il était souvent dans le temple, semble-t-il, et il attendait l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors, encore faut-il les connaître. Et donc, pour qu'ils puissent attendre l'accomplissement des promesses de Dieu, il faut croire qu'il les avait étudiées. Il faut croire qu'il avait regardé, il avait appris, il avait lu la Bible, ce qu'était la Bible à son époque. Il avait écouté des gens lui parler, il avait discuté avec d'autres. Ça nous enseigne ça, notre attitude. L'attente, oui bien sûr, notre vie, on passe notre temps à attendre des choses, mais dans quelle attitude est-ce que nous attendons? Est-ce que nous attendons nourris, remplis de ces promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu? Et c'est ce que veut dire quand on nous dit que Siméon était un homme droit et pieux. Pieux, ça ne veut pas dire un homme ennuyeux qui passait son temps à aller à l'église. Ça veut dire quelqu'un qui voulait consacrer sa vie à l'étude de Dieu, consacrer sa vie à le servir et à marcher avec lui. Voilà quelle était l'attente de Siméon. Et je crois que pour nous, c'est vrai, quel que soit notre âge, si nous, avec nos mots, avec notre compréhension, si nous cherchons véritablement à suivre et à comprendre quelles sont les promesses de Dieu pour nous, alors Dieu agit. Siméon était là dans le temple, il passe par là, il croise des gens, et ça devient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et pour nous, c'est la même chose. Et il peut dire, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu as tenu ta promesse. Et c'était un homme qui était âgé, encore plus vieux que moi, hein, pour dire, c'est pas rien quand même. Et ça faisait donc longtemps qu'il attendait, vraisemblablement. Voilà, l'attente, c'est continuer fidèlement à apprendre de Dieu, à apprendre ce qu'il attend de nous, à apprendre ce qu'il veut pour nous, parce qu'un jour, il va répondre. Parce qu'un jour, sa promesse s'accomplira. Comme il a répondu à Siméon, comme il a répondu à tellement de personnes dans la Bible, mais pas que dans la Bible, dans notre entourage et peut-être dans notre vie, à chacun d'entre nous. Alors l'histoire continue. Siméon les bénit au verset 34 et dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction et ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très âgée, décidément, il n'y a que des vieux là. Dans cette jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans et puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Elle arriva aussi au même moment, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Cet enfant est destiné à être une occasion de chute ou de relèvement. C'est un peu compliqué ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire ? La phrase d'après est un tout petit peu plus claire. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. C'est-à-dire qu'on ne sera pas tous d'accord. Les gens ne seront pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire de ce Jésus qui est né, auquel l'aubergiste n'a pas fait payer la course, là, enfin la chambre, etc. Hein ? Tout le monde ne sera pas d'accord. Pour certains, ça sera une chute, ça va les faire tomber, plutôt tomber. Et pour d'autres, ça va plutôt les relever. Et là, Siméon nous entraîne dans une autre notion, une autre idée. C'est que dans notre vie, nous avons besoin de choisir. Faire le choix. Déjà, il y a très très longtemps dans la Bible, dans Deutéronome, au moment où le peuple d'Israël allait entrer dans le pays de Canaan, le pays promis, ces paroles leur sont données. « Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel vous a promis. » Choisis la vie, faire le bon choix, faire des choix. La vie est une succession de choix. À chaque instant, nous faisons des choix, certains qui sont tout petits, sans conséquences, et puis d'autres qui peuvent avoir des conséquences pour nous, pour les gens autour de nous, pour le monde dans lequel nous vivons, pour toutes les circonstances que nous traversons. Choisis la vie. Jésus est notre guide pour nous aider à faire le bon choix, pour choisir ce que Dieu attend de nous. Dans les histoires qui nous ont été racontées, on a parlé de Zacharie. À un moment, Zacharie n'a pas fait le bon choix. L'ange lui a dit « Tu vas avoir un fils ». Bon, il faut dire qu'il avait des circonstances atténuantes. Vu son âge et vu la circonstance de leur couple, on pouvait admettre qu'il ait dit « Mais attends, c'est pas possible, je ne te crois pas ». Et donc l'ange lui a dit « Tu n'as pas bien choisi et tu seras muet ». Et donc il a été muet. Heureusement, l'histoire s'est bien terminée. On nous l'a raconté après. Hein. Il a arrêté de faire ses signes pour faire la tartine beurrée et puis les épinards ou je ne sais pas quoi. Là. Non, les poireaux, c'était les poireaux. Hein. D'accord. Et puis, Toujours dans le même chapitre premier de l'évangile de Luc, relisez tous ces textes attentivement, ces deux, trois premiers chapitres de l'évangile. Une autre personne, elle, s'est vue proposer aussi un marché, si j'ose dire, étonnant. C'était Marie, à qui l'ange est venu annoncer, elle aussi, qu'elle allait avoir un enfant. Elle aussi, elle a eu des questions, parce qu'elle n'était pas mariée, sa situation ne laissait pas à penser qu'elle allait avoir un enfant. Mais dans la fin de la conversation avec l'ange, au chapitre, dans Luc 1, verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Le choix. Zacharie a, alors je suis un peu méchant avec lui, il a mal choisi, enfin, voilà. Il a eu, disons, une hésitation qu'il a payée pendant les 9 mois où sa femme a dû apprendre les signes, à parler bizarrement. Et Marie, elle, a fait le bon choix. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le début de l'histoire de l'Église, les chrétiens étaient souvent arrêtés parce qu'ils disaient des choses qui choquaient les gens, donc on les arrêtait, on les amenait au tribunal, on leur demandait de s'expliquer sur eux. Mais pourquoi donc vous dites, vous, qu'il faut croire Jésus plutôt que faire ce qu'on faisait avant dans notre tradition religieuse? Et lors d'un de ces événements, c'est dans les Actes au chapitre 4, verset 12, l'apôtre Pierre, qui parlait un peu pour les autres parce qu'il était un peu le chef de la troupe, il dit c'est en lui seul, en Jésus seul, que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun homme, autre homme, par lequel nous devions être sauvés. Le choix, faire le choix. Alors j'ai lu jusqu'à l'histoire de Anne aussi, cette prophétesse, qui ne rajoute rien à l'histoire, si ce n'est qu'elle confirme. Elle est juste témoin de ces choses. Anne, la prophétesse, 84 ans, qui est dans le temps tout le temps, elle était là pour attester que ce qui s'est passé entre Siméon, Marie, Joseph, c'était réellement passé et c'était véritablement l'accomplissement des promesses de Dieu, ou en tout cas un élément de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et je termine l'histoire, on continue à partir du verset 39. Après avoir accompli tout ce que la loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village. Le petit enfant grandissait, se développait, il était plein de sagesse, la grâce de Dieu reposait sur lui. Un beau gamin quoi, il était bien sympa, posait pas de problème. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque, et quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent, selon la coutume de la fête. On ne va pas raconter l'histoire qui vient après, vous la lirez tout seul, mais il s'est passé 12 ans, enfin il y a eu 12 ans sans qu'il ne se passe rien. La patience. Après l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu, après les choix que ça nous amène à faire, la patience. Pendant 12 ans, ces gens ont élevé leurs enfants comme tout le monde élève ses enfants, ou à peu près comme ça se faisait en tout cas à l'époque, et il ne s'est rien passé. Et puis au bout de 12 ans, il y a eu un événement que vous lirez dans la fin de ce deuxième chapitre, l'évangile de Luc, qui a commencé à éclairer sur la personnalité singulière de ce Jésus, de cet adolescent qui avait 12 ans. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, son action ne dépend pas de nos urgences, même si nous aimerions bien parfois lui imposer le calendrier. Au moment où ces événements vont se passer, Siméon et Anne, ils étaient déjà tellement vieux 12 ans avant, ils sont sans doute morts, on peut supposer, encore que, bon, je ne sais pas, 84 et 12, 96 ans, bon, c'est encore jouable, mais bref, il y a des chances qu'ils n'étaient plus dans le circuit en tout cas. D'autant que Marie et Joseph étaient remontés, ils avaient quitté Jérusalem, ils étaient repartis chez eux, ils n'étaient plus là, mais les parents, eux, gardaient les choses dans leur cœur, ils étaient attentifs à ce qui s'était passé. Et puis un jour, 12 ans après, beaucoup de patience, Jésus va commencer à manifester qu'il est quelqu'un de plus qu'un adolescent ordinaire. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long, juste au travers de cette histoire de Siméon, j'ai trouvé, que vous connaissiez tous hein, évidemment, mais j'ai trouvé ces trois mots sur lesquels je veux qu'on reste. L'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu a fait des promesses, il nous en a fait à nous aussi. Et c'est vrai que des fois c'est dur, parce que c'est long, ça met du temps à venir, et parfois on a même du mal à y croire, ou on commence à perdre l'espoir, si j'ose dire. Le choix, Dieu nous propose chaque jour de faire des choix, qu'il puisse nous guider à faire les bons choix, et puis la patience, parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. On va lire quelques versets dans le psaume 42, ah ouais, je vais lire dans la Bible en français courant. Je trouve un peu plus élégante. Vous connaissez ce psaume qui dit « Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. » On le chante, ça. Hein « Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter à lui ? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, ton Dieu, mais que fait-il donc ? Et dans un petit livre qui commente un peu ces psaumes, j'ai trouvé ces quelques phrases qui disent « Pourquoi l'intervention de Dieu est-elle irrégulière dans le temps ?» Chacun peut citer des délivrances que l'on nous raconte dans les générations passées. Un ami va nous témoigner de la guérison que Dieu lui a accordée. Notre passé à nous lui-même porte la trace, ici et là, de l'intervention de Dieu, du Seigneur. Mais nos existences sont traversées également par des vides, des jours de douleur, des angoisses. Quand nous prenons acte de cette irrégularité, une interrogation surgit à l'instant du malheur. Jusqu'à quand ça va durer comme ça ? Et Siméon était là, il se voyait vieillir. Il disait, mais Seigneur, jusqu'à quand tu vas me faire attendre cette promesse, la réalisation de cette promesse que dont tu m'as dévoilé l'arrivée ? Et on peut avoir la crainte et on peut parfois être découragé. Alors, avec les derniers versets de ce psaume, je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ? Me voici brisé par les insultes de mes ennemis qui me disent, ton Dieu, mais que fait-il donc ? Et il termine en disant, à quoi bon me désoler ? À quoi bon me plaindre de mon sort ? Mieux vaut espérer en Dieu, le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Que nous puissions, comme Siméon, être dans l'attente de ce que nous apprenons, de ce que nous cherchons à comprendre, faire les bons choix jour après jour, et puis avoir la patience de Dieu, parce qu'il agira, mais il agira dans son temps. Amen. Et on va chanter, j'avais demandé qu'on chante un chant après ça qui dit « J'écouterai ce que dit Dieu » et qui s'intitule « Ta bienveillance ». Voilà. Que le Seigneur...